Studio Tamani, voici les informations en français.
Lutte contre l'occupation anarchique des voies publiques. La mairie du district a entamé une opération de déguerpissement des voies publiques dans la capitale. Elle va continuer jusqu'à la libération totale des artères principales du district de Bamako. Démarrage ce lundi des épreuves du BT Santé sur l'ensemble du territoire national. À Bamako, des candidats rencontrés s'expriment sur la qualité de la surveillance dans cette édition. Ils sont 22 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs nationales aux Jeux Olympiques Paris 2024. La liste a été dévoilée aujourd'hui par le sélectionneur. À l'instant, le sommaire de cette édition, tout de suite, les détails avec Hamsetou Touré. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Je l'annonçais à l'instant dans les titres. L'occupation anarchique du domaine public sur les axes de circulation continue de préoccuper les usagers de la route et les responsables de la ville de Bamako. Un défi à relever selon certains responsables. Et c'est dans ce cadre et sur ordre de la délégation spéciale de gestion de la mairie du district qu'une opération de déguerpissement est en cours dans la capitale malienne. Vendeurs et clients se sont prononcés dans ce reportage de Mamadou Samasekou.
Ils sont entre autres boutiquiers, revendeurs de carburant, de fruits, de légumes et articles divers. Même s'ils sont conscients de violer le code de la route, nombreux sont parmi eux qui affirment ne pas avoir d'autres alternatives.
Au lieu de ramasser nos marchandises, ils peuvent juste nous expliquer ce qu'il y a lieu de faire.
Il n'est vraiment pas facile pour nous de vider les lieux, à moins que les autorités nous offrent soit du boulot, soit une autre place dans le marché.
La direction urbaine du Bon Nord et de la protection de l'environnement qui exécute cette opération affirme avoir d'abord procédé à l'information et à la sensibilisation des occupants avant cette phase du déguerpissement. Commissaire divisionnaire Mourou Diara, directeur de la DIBOP.
Nous avons distribué des copies à des boutiquiers, à des marchands ambulants pour les expliquer l'inconvénient même de l'occupation du domaine public. Chaque fois, si on les chasse, ils reviennent encore. Souvent, on prend leurs marchandises, on paye des contraventions. Tant que l'incivisme va durer, l'opération de déguerpissement va continuer. Mon personnel est déterminé.
Pour des clients, bien vrai que force doit rester à la loi, il est quand même nécessaire de prendre en compte les soucis des uns et des autres.
La personne peut être victime d'accidents de la circulation.
Ils sont très très exposés. Ramasser aussi les marchandises des gens, je ne pense pas que ce soit une solution. Ce que moi je propose, c'est de toujours sensibiliser.
Les responsables de la mairie du district de Bamako rappellent que l'un des objectifs de cette opération est surtout la sécurité des revendeurs eux-mêmes.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement appelé Twitter. Autre titre de ce journal, les épreuves du brevet de technicien en santé ont démarré ce lundi 8 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À Bamako, au centre du lycée technique, certains candidats affirment que les premières épreuves ont été abordables. D'autres, par contre, disent le contraire. Toutefois, des candidats rencontrés sur place apprécient la rigueur des surveillants. Écoutons des réactions de quelques candidats recueillis par notre reporter Sita.
Oui, ça se passe bien, Dieu merci. Pas de téléphone, pas de soumets et puis pas de sac.
Bon, pour le moment, première épreuve, ça n'a pas été aussi facile que ça. Et puis la surveillance ici, c'est vraiment serré. La deuxième épreuve, ça sera sur la nutrition.
Ça a été un peu moins.
Je suis infirmière en santé publique. Oui, les premières épreuves ont été abordables. Les questions ont été à notre portée vraiment. On n'a pas eu de difficultés. La surveillance, ça s'est bien passé.
Vraiment, les sujets de ce matin ont été à notre portée vraiment.
Bon, les épreuves de ce matin, ça s'est très bien passé à l'Amdoulila. Pour moi quand même, ce matin, nous avons fait la pathologie médicale.
Au nord et au centre du pays, le vol de bétail est devenu une menace pour le secteur de l'élevage, un pilier essentiel de l'économie du pays. Certains éleveurs affirment avoir perdu tous leurs troupeaux à cause du phénomène. Toutefois, ils demandent aux autorités de renforcer la sécurité afin qu'ils puissent mener leurs activités pastorales en toute quiétude. Les détails avec Sita Sidibé, avec le concours de nos correspondants.
Au nord du pays, plusieurs personnes ont été victimes de vols de bétail. Un phénomène récurrent engendré selon les habitants par la persistance de l'insécurité.
Vraiment, il y a eu tellement de vols de bétail. Actuellement, il ne nous reste absolument rien dans le village.
Bon, en Songo, quand même, il y a eu des cas d'enlèvement de bétail.
Nous sommes attaqués et on nous prend nos bétails. J'ai été deux fois victime.
Deux fois, ils ont volé mon mouton. La première fois, deux moutons et la dernière fois, un mouton.
Assassinats et vols de bétail sont entre autres les problèmes auxquels les communautés du centre sont confrontées. Témoigne un habitant à Bankas, dans la région de Badiangara.
Il y a eu des enlèvements d'animaux et des biens, des matériaux roulants. Oui, les animaux sont partis, non seulement les animaux sont partis, et il y a eu des morts aussi, parce qu'il y a eu 4 morts.
Selon des éleveurs, ce phénomène de vol de bétail paralyse le secteur pastoral et impacte négativement la vie socio-économique des populations.
Sur un tout autre sujet, le deuxième tour des élections législatives françaises s'est déroulé hier dimanche. Le Rassemblement national arrive troisième à ces élections. La victoire de ce parti d'extrême droite suscitait une certaine inquiétude chez des Africains sur le territoire français. Mais pour le Conseil supérieur de la diaspora malienne en France, ces élections n'auraient rien changé dans les conditions de vie des migrants, quel que soit le vainqueur. Sékou Magassa est membre du Conseil supérieur de la diaspora malienne en France. Il est joint par Ali Cissé.
Personnellement, je crois plutôt que même si le Rassemblement national avait eu la majorité absolue, ça n'aurait pas changé grand-chose aux conditions de séjour des migrants en France, parce que nous avons toute une foultitude de dispositions légales et réglementaires qui font que dans un pays de droit, les conditions de vie des gens, la vie des gens est protégée. Avec cette nouvelle situation où on a trois blocs, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. En tout état de cause, on peut dire aujourd'hui que nous sommes dans une sorte de statu quo, c'est-à-dire par rapport aux conditions de vie des migrants. Je ne vois pas comment les propositions du Front populaire qui a eu plus de députés, on va dire, peuvent être appliquées dans un pays en crise avec toutes les difficultés que nous connaissons.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
À présent, la rubrique Zoom sur du jour. Notre chroniqueuse Adama Madou Aïdara nous parle de la fluidité de la circulation à Bamako durant les vacances.
On se demande très souvent si ce sont les écoliers qui provoquent tous ces embouteillages dans la capitale. Quand bien même depuis plusieurs jours déjà, on n'a plus besoin de se réveiller très tôt pour éviter les bouchons comme a-t-on l'habitude de le faire. En tout cas, vous êtes nombreux à faire la remarque le matin quand vous sortez. La circulation est de plus en plus fluide, surtout au niveau des trois ponts de la capitale. Des trajets dont on passait des heures à parcourir sont maintenant faits en un laps de temps. Des usagers sont si contents de voir la circulation si fluide qu'ils souhaitent la prorogation des vacances. Mais attention, cette fluidité des axes routiers n'est pas effective partout à Bamako. Certaines voies sont abonnées aux embouteillages, notamment la route de Yirimadjo, en passant par Nyamana et Dialakorobougou sur la route de Ségou. Sur place, des usagers ne cachent pas leur ras-le-bol.
Un mot de sport dans ce journal. La liste des 22 joueurs retenus par le sélectionneur Alou Badra Diallo des Aigles U23 pour les Jeux Olympiques Paris 2024 a été rendue publique ce lundi. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de la FEMAFOOT. Alou Badra Diallo, sélectionneur des Aigles U23, se dit conscient des défis mais confiant quant à la bonne participation de ses poulains aux Jeux Olympiques. Il est au micro de Khalifa Goïta.
Ce qui justifie le choix, nous avons opté, mon encadrement et moi, c'est la continuité. Parce que nous avons joué la CAN avec un groupe qui était là, en espérant que ce groupe soit renforcé par d'autres joueurs. En Mousserop. Ensuite, ce groupe est resté compétitif. C'est le groupe-là qui a joué tous les matchs que nous avons eu à jouer. C'est un groupe qui se connaît. Il y a aussi une très bonne ambiance, un bon esprit. C'est les jeunes aussi qui se battent. On a pris les joueurs qui sont compétitifs. Bah, c'est leur chance aussi, c'est ce que je l'ai dit. Il faut saisir cette chance. Nous avons envie d'avoir l'objectif. Qui nous a été donné. Quand vous êtes responsable, il faut prendre des décisions responsables. Le groupe du Mali, c'est une poule difficile. Au niveau des jeunes, le Mali a toujours sa carte. Nous, on n'a peur de personne. Hein. C'est un message à nos jeunes. Il faut qu'ils savent qu'ils ont une lourde responsabilité. Les peuples prennent sérieux. Ils n'ont pas le droit de faillir.
Retrouvons à présent Imerana Kilumeiga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Imerana.
Bonsoir Amsatou.
Alors, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Sommet de la CEDEAO et de l'AIS, des rencontres qui secouent. On en parle avec Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat et analyste politique, Yida Seydou Adial, spécialiste des questions sécuritaires et de gouvernance, Mahamadou Doukouré, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali.
C'est noté, vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321 et c'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs CFA de crédit dans votre téléphone. Et c'est ce qui referme ce journal, une présentation de Hamsetou Touré. Merci de l'avoir suivi, tout de suite le magazine. En 2023, plus de 6500 migrants maliens ont été accueillis à l'aéroport Bamako-Sénou et environ 7800 ont séjourné à la maison des migrants, toujours à Bamako. C'est dans le cadre du programme de retour volontaire des migrants organisé par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Mais le processus paraît long pour certains acteurs. Selon l'OIM, c'est dû à d'énormes facteurs dont le profilage des migrants et le financement du programme. En diffusion suivant ce magazine réalisé et présenté par Assitou Kanté. Il entre dans le cadre des coproductions des médias de la Fondation Hirondelle, Studio Tamani au Mali, Studio Kalango au Niger et Studio Yafa au Burkina Faso.
Parmi les migrants qui sont rentrés en 2023, de nombreux sont des ressortissants de la région de Kaï. Tchekoro Samson Kone, chef du sous-bureau de l'OIM à Kaï au Mali, explique le processus.
Nous avons des FMP, des focal points au niveau de la frontière Bouki qui fait frontière avec la Mauritanie, qui nous informe que ces migrants ont été expulsés et qu'ils désirent rentrer dans leur pays volontairement. Donc nous sommes contactés. Nous organisons les mouvements de la frontière à Kaï, qui soit Burkinabé, Nigérien, Tchadien, Guinéen, Nigérien et autres. Donc une fois que cela arrive, on fait un profilage.
Cela peut prendre combien de temps?
Cela dépend aussi des différents consulats ou ambassades. Par exemple, il y a des pays où, par exemple, la Côte d'Ivoire exige souvent la présence physique du migrant pour attester que c'est un Ivoirien. Par contre, d'autres sont beaucoup plus flexibles dans leur démarche.
Cette attente peut être longue pour des migrants. C'est le cas de certains Guinéens, Burkinabés et Ivoiriens qui séjournent à la maison des migrants de Kaï en attendant de pouvoir rentrer dans leur pays respectif. Parmi eux, un couple avec leur petit garçon de moins de 2 ans. Nos tentatives pour les faire réagir sont restées vaines, faute d'autorisation accordée par l'OIM. À Kaï toujours, il y a aussi le Centre d'information et d'orientation des travailleurs migrants, SIOM, de la région. Ses responsables soulignent qu'ils sont un trait d'union entre les migrants et l'OIM. Alassane Yattara, animateur au SIOM.
L'aide que nous apportons, c'est une aide d'orientation. Dès qu'on les reçoit, on les enregistre. Et maintenant, à partir de l'enregistrement, maintenant, nous savons ce qu'ils veulent. Et maintenant, nous avons des services techniques maintenant, vers qui il faut les orienter. Et le principal acteur même de l'orientation, c'est l'OIM. Mais aussi avec les autres services techniques, comme l'INPS, comme aussi la DRT, la Direction Régionale du Travail.
Une fois de retour dans leur pays respectif, l'OIM soutient aussi des migrants pour faciliter leur réintégration, explique Tchekoro Samson Kone.
Pour les migrants qui sont, par exemple, les CAI sont déjà identifiés et sont orientés vers les bureaux des CAI. Faisons ce qu'on appelle le counseling. Quelqu'un vient avec un projet, je veux faire pratiquer l'agriculture, c'est ce que je connaissais avant de partir à la migration. J'étais sur l'élevage ou bien j'étais sur le commerce. En fonction des projets proposés par les migrants, donc nous organisons la formation d'abord. Nous faisons la formation avec les services techniques ici, la Direction régionale de l'agriculture pour tout ce qui est activité liée à l'agriculture et au maraîchage.
Gaoussou Koulibaly est un ancien migrant malien. Après son retour de l'Algérie, il a été soutenu par l'OIM et gère aujourd'hui son entreprise.
Avant de prendre le chemin de la migration, j'étais maintenancier en informatique. Quand je suis revenu, je leur ai dit que je me connaissais en réseau également. L'OIM a financé une formation pour moi en réseau EG45 avec l'ONG Autre Monde. Mon patron a beaucoup apprécié ma manière de travailler. Après la formation, il a voulu qu'on continue à travailler ensemble. Il m'a même aidé à mettre en place ma propre entreprise.
Selon l'Association des Maliens expulsés, cet accompagnement de l'OIM n'est pas à hauteur de souhait pour certains migrants. Ses responsables soulignent qu'après cette formation, certains reviennent vers eux pour bénéficier d'une autre aide.